Bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'être ici ce matin. Merci pour les braves qui ont passé malgré la neige. Ils n'ont pas couché trop tard hier soir non plus. J'ai une requête à vous faire, là, surtout pour les jeunes. Ceux qui priaient pour qu'il y ait un Noël blanc, là, faut dire d'arrêter de prier. On en a assez. Ça continue comme ça, on va en avoir encore à Saint-Jean-Baptiste. Pas de place pour Jésus. Et la petite vidéo le représentait bien tantôt, quand Jésus est arrivé, le roi Hérode ne voulait pas qu'il y ait un autre roi qui vienne régner, et il était profondément troublé. Pas de place pour deux rois. Et c'est vrai, parce que quand un roi règne, c'est lui qui est l'autorité suprême, et on n'a pas de place pour deux. Et on va regarder le texte qu'on a lu tout à l'heure, lorsque les mages sont arrivés à Jérusalem et que Hérode était troublé. Jésus étant né, dans Matthieu, chapitre 2, versets 1 et 3, à 3. Si vous voulez, on va prier avant. Grand Dieu, on te prie d'être encore avec nous ce matin, Seigneur, et de bénir tous les gens qui sont ici, de bénir tous les gens qui sont à la maison, qui nous écoutent. Seigneur, on te prie que ce soit ta parole qui parle au cœur et non pas un homme. Seigneur, les cœurs et de faire ton œuvre dans nos vies. Amen. Donc, salut tous ceux qui sont en pyjama et en camisole, qui nous écoutent ce matin. Donc, bienvenue parmi nous. Donc, nous lisons le texte de Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 3, qu'on a lu tantôt avec Jérémie. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils dirent, « Où est le roi des Juifs? » Oh, le roi des Juifs. C'était pas n'importe qui. C'est pour ça que Hérode a eu peur. Parce que ces mages-là, c'était pas n'importe qui. C'était pas des ticounes, là. Ils sont arrivés avec leurs chameaux. Et on parle dans la tradition de trois rois mages. Mais, parce qu'il y avait trois cadeaux, mais il était pas mal plus que ça. Et il y avait beaucoup de choses, de richesses. Et le fait que ces gens-là se soient déplacés de l'Orient pour venir à Bethléem et à Jérusalem, pour lui, waouh, c'est vrai ce qu'ils disent. Donc, l'Église a cru. Donc, je risque de me faire détrôner. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Quand nous avons vu son étoile en Orient, nous sommes venus pour l'adorer. On n'adore pas un roi d'habitude, on adore un Dieu. Donc, c'est un roi qui est Dieu. Wow! Donc, c'est pas n'importe quel roi. On a chanté tantôt le roi des rois. Donc, c'est un roi qu'on peut adorer, même qu'on doit adorer. Donc, c'est pour ça que, on voit verset 3, le roi Hérode, ainsi que, après avoir appris cela, fut troublé. Il a shaké dans ses culottes, comme on dit des fois, troublé, et tout Jérusalem avec lui. Pourquoi Jérusalem était troublé, je ne sais pas encore, parce que Jérusalem aurait dû se réjouir. Le Messie est arrivé, donc ils ont été troublés parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Et des fois, quand on parle du Seigneur avec quelqu'un, la personne peut être troublée, rejetée. Donc, ils ne connaissaient même pas, mais ils le rejetaient. Heureusement que les mages n'ont pas dit à Hérode où était Jésus. On voit plus loin dans le texte que divinement averti, les mages ont retourné par un autre chemin pour ne pas voir Hérode. Et Hérode s'est mis en colère. Et vous savez qu'il a fait tuer tous les enfants, 2 ans et moins. C'était horrible qu'est-ce qu'il a fait. Et parce qu'il avait peur qu'il y ait un roi qui soit né, qui allait le remplacer, parce que le seul roi, c'était lui, Hérode. Donc, quand Jésus est né, Hérode a dit pas de place pour deux rois. Et aussi, quand Jésus est né, nous voyons dans Luc, chapitre 1, versets 6 et 7, qu'il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Donc, Jésus, pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Jésus a dû être emmailloté et couché dans une crèche. Le mot, c'est aussi mangeoire. Donc, c'est un endroit, Le mangeoire, c'était pour les animaux. Les animaux, on mettait le foin là-dedans, le blé, les choses qu'ils mangeaient. Mon grand-père, il appelait ça une auge. C'était ses cochons, il mettait des auges. Mais le problème, c'était pas des porcs, parce que Jérusalem, à Bethléem, les porcs étaient un animal impur. Donc, c'est probablement pour nourrir les brebis ou les bœufs, les vaches. Donc, Jésus était à travers les animaux. On va lire le texte qui nous parle de ça. Luc 1, 6 et 7, Donc, on sait que Joseph est allé à Bethléem pour se faire mettre sur le recensement comme ça avait été ordonné. Donc, pendant qu'ils étaient là, c'est-à-dire à Bethléem, le temps où Marie devait accoucher arriva, elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche ou mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place, encore là, pas de place, pour eux dans l'hôtellerie. Donc, est-ce que c'est dans une étable? J'ai lu un petit peu là-dessus, des auteurs qui disent oui, c'est une étable, d'autres qui disent non, il y en a qui disent c'est une grotte. Et qu'est-ce qui serait le plus réaliste? C'est qu'à l'époque, en Palestine, les maisons étaient divisées en trois. Il y avait une grande pièce où tout le monde vivait, la famille. Le salon, cuisine, la chambre à coucher, tout était là, tout le monde vivait ensemble. Et il y avait une autre pièce qui était réservée pour les invités à part, qui pouvait s'appeler aussi l'hôtellerie. Okay? Donc, il n'y avait pas de place dans cette pièce-là pour les invités. Mais quand on parle d'hôtellerie, ça peut être aussi les auberges aussi. Okay? Et il y avait une troisième place qui était réservée pour les animaux, à même la maison, avec entrée par l'extérieur. Les animaux pouvaient aller là quand il pleuvait trop ou qu'il faisait trop froid. Donc, c'est probablement cette place-là où Jésus a été mis. Donc, pas de place avec la famille, pas de place dans l'hôtellerie, c'est-à-dire la place, l'hôtel ou la place où les invités, la visite, peuvent coucher. Donc, ils l'ont mis à la place réservée aux animaux. Donc, encore là, pas de place pour lui avec les humains. Là où les humains couchent, il y avait la place pour lui, là où les animaux couchaient. Donc, pas de place pour deux rois, pas de place dans l'hôtellerie et pas de place parmi les siens. Il est venu voir les siens. On voit dans l'Évangile de Jean qu'il n'y a pas de place parmi les siens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis sur une croix. Ils l'ont crucifié. Donc, c'est tellement dérangeant. Quand on parle des siens, ici, on parle du peuple juif. Son peuple, ils l'ont mis sur une croix. Le texte est ici, dans Jean, chapitre 1, versets 10 et 11. Elle, c'est-à-dire en parlant de la parole qui est Jésus, qui est le créateur de l'univers, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Donc, tout l'univers a été créé par Jésus. Et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Donc, pas de place pour Jésus à sa naissance, pas de place pour lui dans sa vie, aux 33 ans qu'il était sur la terre et pas de place pour qu'on le mette sur une croix entre ciel et terre. Comme un criminel. Et on sait que quand Jésus a été crucifié, Pilate a fait mettre une inscription en haut de la croix. C'est marqué « Celui-ci est le roi des Juifs ». Et c'est drôle que quand il est né, Hérode avait reconnu qu'il était le roi. Il a voulu le tuer. Et maintenant, Jésus, c'est sûr qu'il était condamné à mort, il était sur la croix, en train de mourir. Là, Pilate n'avait pas peur de dire qu'il était roi. Donc, il reconnaissait encore qu'il était roi. Et même, et il a écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs, en trois langues. En hébreu, qui était la langue des Juifs. En grec, qui était la langue de commerce, que probablement tout le monde connaissait. Un peu comme l'anglais aujourd'hui. Et en latin, pour le peuple, pour les Romains qui occupaient Jérusalem à ce moment-là, qui parlaient le latin. Et qu'est-ce que les principaux sacrificateurs ont dit, au verset, chapitre 19, versets 21 et 22 de Jean, les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais écris, il a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Donc, Pilate reconnaissait que Jésus était le roi des Juifs. Et on voit cette inscription des fois, INRI. Hein, quand on voit une croix, là, INRI, on se demande que ça veut dire ça. Parce que c'est une abréviation tout simplement, parce que si on écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs, puis en trois langues, d'après moi, la enseigne, elle doit être assez grosse pour que les gens pouvaient le lire, qui étaient plus bas, pouvaient le lire d'assez loin, donc qui était assez gros. Donc, INRI, c'est en latin. Ça veut dire « Jésus », c'est un « i », là, même si c'est pas de point. « Jésus », le « n » « Nazarenus », le « r » pour « rex », qui est le « roi ». Et « Judea Urum », latin compliqué, là, il s'accorde avec le complément, le nom. Donc, juif, au pluriel. Donc, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'est ça que ça veut dire, I-N-R-I. Donc, je le dis tout de suite, c'est une question d'examen, là. Faut l'apprendre. Principal, c'est qu'il soit le roi des Juifs. Et aujourd'hui, un autre endroit où Jésus n'a pas sa place, c'est à son anniversaire. On va en parler tantôt, c'est vraiment le 25, là. Il y a une chance sur 365 qui soit née le 25 décembre. Donc, pas de place pour lui à son anniversaire. Quand j'étais jeune, moi, Noël, c'était les cadeaux. Pour les enfants, souvent, c'est les cadeaux. Ça s'appelle Noël. Décoration, un bonhomme de neige. Il y a le Père Noël qui est apparu aussi. Jusqu'à un certain point, il était le pourvoyeur, était remplaçait jusqu'à un certain point le Père Céleste, hein, le pourvoyeur. Et aussi, pour certains, Noël, c'est prendre un petit coup. Ça a déjà été, pour moi, quand j'ai grandi, c'était plus les cadeaux, c'était plus le sapin, c'était la fête, prendre de la boisson. Pour d'autres, Noël, c'est, on va manger, il va y avoir de la bonne nourriture. Pour mon cas, vous voyez bien que, oui, juste de manger plus. Et pour d'autres, c'est la famille. Je pense pour moi, pour tout le monde. Noël, c'est les réjouissances, la famille. Et quand on est seul, comme disait Harry, on est loin de la famille, ça peut être triste. Chez nous, la famille, on va se réunir seulement le 6 janvier. C'est qu'on n'a pas mis de musique de Noël parce que ça aurait été trop triste cette année. Habituellement, il y a toujours du monde, mais cette année, il n'y en avait pas. Donc, l'élément familial est important dans la fête de Noël. Donc, mais c'est pas ça qui doit être le premier. Il doit être le premier, c'est Jésus. Est-ce que Jésus est né le 25 décembre? Ben, le 25 décembre, c'était à l'origine la fête de Mitra, qui est un dieu païen, qui était le dieu de la lumière. Et ce dieu-là, sa fête, c'était le 25 décembre. Et il y a un empereur romain qui s'appelle Constantin, qui s'est converti au christianisme en 325, après Jésus-Christ. Il a dit, on fêtera plus ce Dieu païen-là. Le 25 décembre, on va fêter le vrai Dieu de lumière. On va fêter la naissance de Jésus. L'intention était bonne. Donc, il a comme converti, transformé la fête à Mitra, qui est un Dieu païen, Dieu de la lumière. Maintenant, on va fêter le vrai Dieu de la lumière, qui est Jésus. C'est pour ça qu'on a le 25 décembre. Et Constantin est un empereur romain. Et dans la religion catholique romaine, ben, ça a comme suivi. Et vu qu'il était en majorité, ben ça, on fête aujourd'hui Jésus le 25 décembre. Au moins, il y a une date pour le fêter. Donc, c'est quand même la date où on célèbre son anniversaire. Êtes-vous déjà allé à une fête puis la personne fêtée n'était pas là? Hein, vous venez à ma fête, puis je suis pas là. Hey, la belle fête, il est pas là. Ça, vraiment, aujourd'hui, Noël, on fête Noël, mais la personne... En fait, l'anniversaire de Jésus, mais il n'est même pas là dans nos célébrations, on n'en parle même pas. Et il n'y a pas beaucoup de personnes, en général, qui se réjouissent à Noël de la naissance de Jésus. Il y a beaucoup de choses pour se réjouir, mais pas beaucoup qui se réjouissent à la naissance de Jésus, sauf dans les milieux chrétiens. Je suis content parce que Jésus a de la place dans nos vies, Jésus a de la place dans notre Église. Et dans notre société en général, on évite d'employer le mot Noël. Tony nous a dit la semaine dernière que ça signifiait jour de naissance. Noël, c'est-à-dire jour de naissance. Et souvent, on a peur d'employer le sapin de Noël ou on ne dit pas toujours le mot Noël. En anglais, c'est plus évident. Christmas, donc il y a le mot Christ dedans. Mess, c'est pour messe. On pourrait dire messe de Christ ou, dans le vrai sens, c'est la fête de Christ. Et chez les anglophones, les plus croyants vont parler d'un Christmas tree, un arbre de Noël, et ceux qui sont portés vers la laïcité vont parler d'un holiday tree, un arbre des fêtes. C'est fade un peu, hein? Un arbre des fêtes. Pour ne pas employer le mot Christmas. L'an passé, on s'en souvient à cause des restrictions sanitaires dues à la COVID, le premier ministre Legault avait dit, on va essayer de sauver Noël. Il voulait dire, on va essayer de sauver les fêtes de Noël. Quand il disait ça, ça me faisait drôle. On va essayer de sauver Noël cette année. c'était qu'il allait permettre certains rassemblements. Et je me souviens qu'à Noël, chez nous, on s'est réunis, on pouvait être 8. Ça a bien tombé, on était 8 exactement. Donc, mais l'important, on voit dans la société, c'était de sauver la fête. Je comprends que le premier ministre Legault n'est pas chrétien, on comprend qu'il ne comprenait pas non plus, je ne veux pas juger là-dessus. Mais le premier ministre s'est transformé en sauveur de Noël. On va sauver Noël. Le sauver en partie. Non, mais le plus important, c'est pas de sauver Noël, mais de célébrer le sauveur. Et la question n'est pas qu'est-ce qui a besoin d'être sauvé, mais qui a besoin d'être sauvé? C'est la vraie question. Qui a besoin d'être sauvé? Et le plus beau cadeau à Noël, c'est Jésus, qui est là, qui attend toujours qu'on l'accepte pour ceux qui l'ont pas accepté. Ceux qui l'ont accepté, c'est qu'on profite de lui, de sa présence, de la joie qu'il nous procure et du salut. La plupart des gens veulent les choses que Dieu donne, la santé, l'argent, la paix, mais ils ne veulent pas nécessairement Dieu et ne sont pas reconnaissants. Ils ne sont pas reconnaissants en retour pour tout ce qu'il fait pour eux. Je donne un exemple. Un ado, dans sa crise de rébellion, son père l'aime, mais l'ado ne sent pas que son père l'aime. Il se sent rejeté, puis il rejette son père, puis il est brusque avec son père. Il n'est pas reconnaissant pour le foyer que son père lui donne, la maison, il s'occupe de lui, la nourriture. Mais l'ado, il rebelle vis-à-vis de son père. Mais il dit à chaque semaine, « Oublie pas mon argent de poche. Hein? » C'est un peu ça, nous, là. Dieu, je fais ce que je veux, mais oups, ma santé. Et vous allez l'entendre au Nouvel An. La santé, c'est ce qui est le plus important. Je dirais que ça vient en deuxième. Et vous allez l'entendre. On ne peut pas dire à chaque personne qui nous dit ça, non-croyant, « Ah non, c'est pas le plus important, mais à l'occasion, on peut le faire. » Donc, le plus important n'est pas Dieu, mais c'est ce qu'il donne. Donc, c'est pas le don. On fait plus référence au verbe le don et non pas le donateur. Donc, même nous, comme croyants, est-ce que Dieu est là pour répondre à toutes nos requêtes ou il est là pour qu'on apprenne à le connaître davantage, qu'on goûte à son amour, qu'on soit reconnaissant? Maintenant, une autre place. On voit que Dieu n'avait pas de place à son anniversaire, mais c'était une période où Dieu n'avait pas... Ah, OK, on m'a dit des nouvelles de Mike tantôt, j'avais oublié. Ça, c'est une photo de famille de chez nous, en Noël l'année passée. Pointeur, es-tu là? Ouais. Donc ça, c'est Myriam qui prenait la photo de selfie. Ça, c'est moi, un an plus jeune. Ça, c'est Mike Fast, celui pour qui on prie, là, qui a la leucémie là, depuis le mois d'août. Actuellement, si vous voulez des nouvelles, il termine son deuxième cycle de traitement. Effet secondaire, il y a le bout des extrémités, des doigts, orteils engourdis, faibles, porté à trembler. Donc, il reste encore deux cycles jusqu'au mois de mai. On demande de continuer à prier pour lui. Mais le moral est bon et on célébrait Noël en famille. C'est un Noël assez spécial parce que ça demandait d'être capable de le célébrer, mais faites compte. Le Seigneur permet qu'il célèbre ce Noël-là et il devrait être guéri au mois de mai. Prions pour cela. Donc, l'autre, c'est Marie-Ève, la fille et sa femme et son garçon Vincent. Vous voyez qu'ils se ressemblent un peu, là, de caractère, là, la bouche ouverte, extravertis les deux. Ça, c'est Raphaël, le plus vieux, plus tranquille. Ça, c'est... Je sais pas c'est qui, ça. Ça, mon épouse, Marjolaine. C'est elle qui a tout préparé, le bon repas. Et ça, c'est Randy, le mari de Myriam, qui a enseigné ici au mois d'août l'année passée. On va les voir au mois de janvier. Donc, pas de place pour Jésus dans ma vie. Quand j'étais jeune, j'étais un enfant très religieux. Même quand on me demandait ce que je voulais faire un prêtre. Je sais pas ce que je disais là, mais coudonc. Mais... On m'avait enseigné ce que la religion demandait pour être sauvé, et je respectais ce qu'il fallait faire pour être sauvé, mais on ne m'avait pas enseigné qui était Jésus, et que j'avais besoin de lui pour être sauvé. J'avais besoin d'une relation personnelle avec lui. Donc, à 17 ans, j'ai laissé cette religion-là. Il y a beaucoup de choses incongrues que je ne pouvais pas accepter, mais je disais, si Dieu existe, c'est pas ici. À l'âge de 20 ans, mon meilleur ami s'est converti. Moi, je voulais rien savoir des chrétiens. Mon meilleur ami s'est converti, il m'a donné une Bible. Ce qui m'a impressionné, c'était de voir le changement dans sa vie. Je n'aurais pas accepté une Bible de personne d'autre sauf de lui. Je voyais le changement dans sa vie, puis ça m'impressionnait beaucoup. Mais je n'aimais pas ce qui était écrit dans la Bible. Aujourd'hui, autant je veux que la Bible, je sais que la Bible est vraie. Et dans ce temps-là, je voulais que la Bible ne soit pas vraie. C'est drôle, hein? Et il y a plein de monde qui est comme ça aujourd'hui. Ils veulent que la Bible ne soit pas vraie. Ils ont plein de raisons pour justifier ça. Et j'aimais pas parce qu'il était écrit dedans, parce que ça m'accusait, ça me disait qu'il fallait que je change, ça me disait qu'il fallait que je donne le contrôle de ma vie à Dieu, que Dieu soit en premier. Mais plus je la lisais pour trouver les contradictions, plus je voulais la mettre de côté, bien, plus je me sentais coupable et moi, c'était la fuite, je fuyais. Je voulais pas, je voyais que ça commençait, c'était vrai, ça commençait à me travailler, mais je fuyais devant cela. Sauf que, mon ami m'a invité à une église, j'ai vu l'atmosphère, j'ai vu les gens qui étaient heureux, j'ai vu quelque chose que j'avais pas. Et fait compte, j'ai fini par comprendre que la Bible était vraie, que j'avais pas le choix, je pouvais pas. Moi, ce que j'aurais voulu, c'était aller au ciel, être sauvé, puis mettre Dieu de côté. Vivre ma vie comme je le voulais. C'était pas faisable. Je pouvais pas avoir deux rois dans ma vie. Donc, à 22 ans, j'ai compris que j'étais pécheur perdu, que j'avais besoin de lui. Je lui ai remis ma vie. Je lui dis, prends ma vie avec toi sur la croix, ma scrap, ma faillite, et laisse pas ça là. Je veux ressusciter avec toi comme toi t'as ressuscité. Là, il m'a donné une nouvelle vie depuis 40 quelques années. Amen. Amen. Donc, on a lu tantôt. On a lu tantôt que Jésus est allé parmi les siens, puis les siens n'en ont pas reconnu. Quand on continue, c'est le verset qui suit, le verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, à ceux qui croient en son nom. » Donc, si tu le reçois, comme il se doit, comme un roi dans ta vie, tu deviens automatiquement enfant de Dieu, si tu crois en sa personne. Donc, c'est ça que j'ai fait. Donc, pas de place pour Jésus dans ma vie, mais si on lui donne toute la place, il la prend. Donc, il vient en moi, je suis son enfant, et Jésus veut prendre toute la place. L'avez-vous reçu? Avez-vous, parce qu'il y a toute la place dans votre vie. Et ici, je fais une petite parenthèse. Comme disciple de Jésus, il est possible que moi aussi, je ne me sente pas à ma place dans les fêtes familiales où il y a beaucoup de non-croyants. Et sur le bord de cette même Jésus, dans Jean 17, versets 14 et 15, il dit, en parlant de nous, il dit, « Je leur ai donné ta parole, le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, que moi je ne suis pas du monde. » Donc, Jésus a été mis sur la croix, Jésus a été haï, et c'est normal. Nous sommes une odeur de vie pour les croyants, et malheureusement une odeur de mort pour ceux qui ne croient pas en Jésus. Comme mon ami était pratiquement une odeur de mort pour moi, là. Même si je le voyais de bonne humeur, là, j'aimais pas ça, ou... Ça m'impressionnait, mais ça me travaillait, mais je n'aimais pas ça. Verset 15, je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Donc, oui, Dieu veut qu'on aille avec les non-croyants, mais il ne veut pas qu'on participe au mal. Donc, il veut prier son Père de nous garder. Donc, c'est normal que dans une fête de famille, on ne se sente pas toujours à l'aise. Et je me souviens que j'ai étudié à Sherbrooke, que je demeurais en Gaspésie, donc j'étudiais 3-4 mois et après ça, je retournais chez nous à Noël. La première année, j'étais pas croyant. Donc, j'avais hâte d'arriver, voir mes chums, la boisson, les jokes et tout ça, la fête. 2 ans après, là, quand je revenais, j'étais croyant. C'était plus la même affaire. J'avais mes vrais amis étaient à Sherbrooke, dans l'église que je connaissais là-bas. Je revenais dans ma famille, mais je prenais plus de boisson, je prenais du 7-Up. Je faisais plus de jokes plates. C'était straight, t'es rendu straight. Et en Gaspésie, le sport national, c'est on joue du coude, là, c'est-à-dire qu'on lève le coude, on prenait beaucoup de boissons, et j'étais rendu comme plate pour eux autres. Et moi, je me disais, quand j'étais tout seul, voyons, c'est moi qui n'est pas normal, qui se passe. J'avais hâte de retourner voir les croyants, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup où j'étais. Donc, c'est normal qu'on se sente pas normal, parce que on a l'Esprit de Dieu en nous. On n'a plus l'Esprit du monde. L'Esprit du monde est parti, on a maintenant l'Esprit de Dieu. C'est ça qui est merveilleux. Et dans Hébreux, chapitre 11, verset 15, 13 à 16, il parle des gens qui sont morts, qui n'ont pas obtenu les choses promises, qui ont souffert. Ils ont considéré qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Ces gens-là cherchaient une patrie meilleure. Et on voit au verset 16 de Hébreux 11, mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. Et c'est ça, nous, on aspire à une patrie meilleure. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Donc, quand Jésus est venu sur la terre, il n'y avait pas de place. Mais quand nous, on va aller au ciel, Dieu nous a préparé une cité. Il est en train de nous préparer ça. Et même Jésus lui-même, il a dit qu'il nous avait préparé une place. On voit ça. Ici, dans Jean 14, 3. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est un peu paradoxal. Hein? Quand Jésus est venu sur la terre, on n'avait pas de place pour lui. Et Jésus nous dit, quand vous allez venir au ciel, votre place est déjà prête. Hein? Maintenant, on va en visite à quelque part, puis on arrive, waouh, on a préparé une belle chambre. Ça va être encore beaucoup plus beau que ça. Okay? Donc, est-ce que votre place, vous avez réservé votre place au ciel? Je vous donne un exemple. Supposément, mon épouse et moi, on veut faire un voyage. C'est le voyage de notre vie. Là, on a ramassé de l'argent. On va aller en croisière dans le sud, mettons. Et on, mettons, tout inclus dans le sud, ce n'est pas une croisière, mettons. Puis, on trouve ça sur Internet. Wow, telle date. Telle heure, wow. Oui, ça marche-tu? Oui, le prix, les dates nous conviennent. Super. On fait un print, on imprime ça, c'est là qu'on va. Fait que, puis on arrive 3 heures d'avance, ensuite, un mois plus tard, là, on s'en va à l'aéroport pour prendre notre avion. 3 heures avant, on arrive pour acheter nos bagages, on donne notre passeport. Voilà, là, on chante. Ben, c'est quoi votre nom? Vous n'avez pas le bon passeport parce qu'on ne vous voit pas sur nos registres. Ben, oui. Non, c'est normal, on vient acheter notre voyage, on s'en va. On est venu pour ça, là. On va vous le payer, notre voyage. Vous n'avez pas compris, là. Le voyage, là, il faut le réserver avant parce que là, l'avion est plein. Non. Oui, l'avion est plein. Donc, la personne ne savait pas qu'il fallait réserver. On ne savait pas qu'il fallait réserver avant, tu sais, puis payer avant. Donc, j'ai beau à m'obstiner à dire oui, je vais vous le payer. L'avion est plein. Donc, je retourne. J'ai manqué mon voyage. Et c'est un peu ça. Est-ce que on a réservé notre place, bien notre place au ciel. Est-ce que Jésus est dans notre vie? Si on ne l'a pas réservé, quand on va arriver devant lui, on ne dira pas, ben oui, justement, je suis venu pour ça, là, tu sais. Non. Ce sera plus le temps de prier rendu au ciel, de dire sauve-moi. C'est avant qu'il faut le faire. Comme le mauvais riche, hein, il disait, envoie Lazare, etc., pour me mettre une goutte d'eau. Mais Lazare, il priait, il était trop tard. Il aurait dû prier avant. Il a fait ce qu'il aurait dû faire avant de mourir. Aujourd'hui, quelle place Jésus a dans votre vie? Qui règne sur le trône de ma vie? 2 possibilités. Soit c'est moi qui ai le roi, ou c'est Jésus qui est le roi. On l'a vu tantôt avec Jérémie. Il y avait 2 rois et avec Hérode avait bien compris qu'il ne pouvait pas y avoir 2 rois, surtout un roi qui pouvait se faire adorer, qui était lui Dieu. Donc, un seul doit régner. Donc, est-ce que je suis le roi de ma vie ou c'est Jésus qui est le roi? Si je suis non-croyant, c'est sûr que Jésus est en dehors de ma vie. Et quand je suis non-croyant, je ne réalise pas, je ne me pose même pas cette question-là. Est-ce que Dieu est roi ou pas? Il est out, il est en dehors de ma vie, donc c'est sûr qu'il n'est pas le roi. Mais si Jésus n'est pas le roi de votre vie, si vous n'avez pas donné la place, je vous invite à accepter son salut pour être sauvé, prendre votre billet tout de suite, pour qu'il réserve votre place, qu'il la prépare. Et le fait de prendre un billet, ce n'est pas dire que je m'assois sur mon steak après, c'est que je continue à vivre pour lui. Donc je vous invite à lui donner votre vie et sur cette terre, lui mettre la couronne sur la tête de Jésus. Sur le trône. Et la majorité qui nous écoute, ceux qui sont ici, vous êtes croyants, vous êtes enfants de Dieu, mais vous êtes sur le trône. Et il ne peut pas y en avoir 2 sur le trône. Peut-être que je pense que Jésus est sur le trône de ma vie, mais en réalité, il ne l'est pas. Oui, Dieu il est sur le trône, Jésus aussi. Et pour moi, le plus important, c'est d'être sauvé, puis après, je vis ma vie un peu à ma manière. J'ai mon billet pour le ciel, tu sais, je vais y aller en voyage, mais actuellement, là, je n'ai pas le besoin d'avoir une meilleure relation que ça avec Dieu. J'ai fait ce qui était nécessaire pour être sauvé. Donc, oui, je peux penser que Dieu est premier dans ma vie, mais il y a une passion, il y a autre chose qui vient en premier, une personne, un péché qui me donne plus de plaisir que ma relation avec Dieu. Si c'est le cas, j'encourage à crier à Dieu, « Oh, viens à mon aide! » Parce que si c'est le cas, je ne réalise pas que je suis en mauvaise situation, que je suis en danger. Et je dois crier à Dieu, « Dieu, aide-moi. Dieu, viens me chercher, me rapprocher de toi. » Et je peux juger les non-croyants parce qu'ils ne s'occupent pas de Dieu, mais peut-être moi, je suis sauvé, j'aurais beaucoup de raisons de courir après Dieu, le chercher, le savourer, mais je ne le fais pas. Et donc, je vous invite ce matin à sonder vos cœurs. Je m'invite moi aussi à sonder mon cœur. Et Dieu sait à quelle place vous êtes. Dieu, on n'a pas besoin de faire de cachette. Si on est loin du Seigneur, lui avouer, « Seigneur, je me sens loin de toi. » Je veux dire, je le savais, mais je suis content que tu le réalises. Okay? Dites-lui ce que vous ressentez, parce qu'il sait que votre amour n'est pas parfait pour lui. Qu'est-ce qui compte le plus dans ma vie? Qu'est-ce qui est le plus important dans ma vie? Dites-lui à Dieu, « Je me sens tiède, et je regrette d'être comme ça. Je ne suis pas content d'être comme ça. » Je peux lui dire que j'ai choisi tel péché avant lui, que telle personne prend plus de place dans ma vie que lui, et que j'ai péché à plusieurs reprises dans telle occasion, puis que je suis pas capable de me débarrasser de cette habitude ou de ce péché-là ou cette passion-là qui prend la place qui lui revient. Et demandez-lui, je désire que tu me changes, parce que de moi, je ne suis pas capable. Et Jésus va dire, ben, c'est drôle, je suis venu pour ça. Tu n'avais pas réalisé que j'étais venu parce que tu n'étais pas capable d'être sauvé, mais tu n'étais pas capable de vivre la vie chrétienne non plus. On pense qu'on est sauvé, ouh, tout va bien aller. Non, on n'est pas capable de vivre la vie chrétienne. Impossible. Donc, Jésus est là pour nous soutenir, demander de prier qu'on ait son esprit. Et son esprit qui va nous révéler Jésus en nous, qui va changer notre perspective de vie. Donc, demandons-lui qu'on veut se délecter de lui, de sa présence. On ne comprend pas des fois. Comment ça se fait qu'on peut prendre plaisir en Dieu, se délecter de lui, être passionné de lui? C'est lui qui va le créer en nous. Nous, on n'est pas capable avec notre cœur humain. Demandons-lui de nous faire goûter à sa présence, à la satisfaction, à une joie qu'on ne retrouvera aucun autre endroit qu'en lui. Demandons-lui de nous aider à l'aimer plus que toute autre chose, toute autre personne exister sur cette terre. Et lui demander qu'on puisse réaliser combien il est grand, combien il est beau, combien il vaut la peine qu'on s'accroche à lui. Et c'est ça, l'adorer. Ne jamais être satisfait de ce qu'il est, puis de toujours être ébloui, époustouflé par sa grandeur. C'est pas juste des chants, comme on a vu tantôt, hein? Jérémie dit, on peut chanter, mais notre cœur n'est pas là. Tu es le premier dans ma vie, on le chante, mais il n'est pas là. Donc, c'est ça mon encouragement. Pour la nouvelle année et pour le restant de votre vie, de demander à Dieu d'être le premier, d'être sur le trône de votre vie, Jésus. Et je vous avoue, si je suis capable de prêcher là-dessus, c'est parce que j'ai des combats moi aussi là-dessus. J'ai dû, des fois, j'ai un projet, c'est ça qui va passer en premier. Et c'est difficile. Jésus prend la place. Je ne suis pas capable, je ne peux même malgré mes efforts. Seigneur, par ton esprit, là, révèle-moi ta présence. Que Dieu nous donne une perspective différente, une perspective d'éternité. Parce que souvent, on est accroché sur nos bobos, nos petits projets. Mais quand on sait que Jésus revient nous chercher, soit par la mort physique ou par son retour, et que ça va être vraiment merveilleux, la vie avec lui pour l'éternité. Il nous reste quelques années sur cette terre, je veux dire misérable, mais c'est pas si misérable que ça, parce que Dieu fait quand même de bonnes choses, il nous bénit malgré certaines épreuves. Ces épreuves-là nous rapprochent de lui. Et Dieu nous aime tellement qu'il nous envoie des épreuves pour nous rapprocher de lui. Donc, terminons par la prière. Notre grand Dieu, nous sommes reconnaissants que tu es là, que tu nous as sauvés, mais que tu nous tiennes dans ta main toute puissante, que tu veuilles nous rapprocher de toi, près de ton cœur. Ô Dieu, donne-nous une soif de ta personne, une soif de toi. Tu es une personne réelle qui nous aime d'un amour inconditionnel, mais d'un amour très, très grand qu'on ne peut pas comprendre. Des fois, on chante un amour extravagant, un amour qui dépasse toute compréhension. Oui, tu nous aimes, nous, chacun, pas les autres, moi, et chacun de nous est aimé par toi. Merci, Seigneur. Et puissions-nous te rendre une partie de cet amour que tu as. On sait qu'au ciel, on va voir combien tu nous as aimés. En attendant, Seigneur, envoie ton esprit dans nos cœurs afin qu'il puisse susciter de l'amour pour toi, l'amour pour nos frères et sœurs, et de faire que notre seul but sur terre, notre plus grande passion, notre plus grande vision, soit de te connaître davantage. Au nom de Jésus. Amen.